Bonjour à tous, il est revenu le temps des émissions radio dessinées de Podcast Science. Et si ces émissions particulières ont manqué à l'équipe un peu, beaucoup, passionnément à la folie, peut-être qu'à vous aussi. Mais vous en rappelez-vous seulement de ces émissions radio dessinées? Petite piqûre de rappel, alors non pas vaccinale mais amicale, pour les poditeurs et poditrices habitués et présentation pour les nouveaux auditeurs de ce soir. Podcast Science Déjà, c'est une émission radio de vulgarisation scientifique diffusée en live chaque mercredi soir ou presque sur le grand internet mondial. Et le principe des émissions radio dessinées, pendant l'heure et demie qui va suivre, des membres de l'équipe de Podcast Science et des invités extérieurs passionnés vont se succéder au micro pour de courtes chroniques sur une thématique commune. Et pourquoi radio dessinée, me direz-vous ? Car tout cela va se faire sous l'œil et le crayon affûté de dessinateurs du Café des Sciences, venus croquer avec habileté, humour et lapin sauvage les chroniques de nos intervenants. Vous êtes sur Podcast Science, nous sommes le mercredi 23 novembre de l'an 2022, c'est l'épisode 481, bienvenue dans cette première émission radio dessinée de la saison. Et c'est cette fois-ci à Paris que Podcast Science a posé ses micros pour cette émission dessinée. Nous sommes plus précisément sur le campus Paris-Cité, dans le hall des Grands Moulins, qui a accueilli ce mois-ci une exposition biodiversité. Mêlant photographie et enregistrement sonore, cette exposition vous propose de découvrir la richesse de la biodiversité urbaine. À l'origine de cette exposition, trois enseignants de l'université Paris-Cité. Un certain Pierre Kerner, plus connu de vos oreilles comme Topo, et deux de ses collègues, Christine Rompon, enseignante-chercheuse à Université, il faut dire Paris-Cité, on m'a dit, et au laboratoire LBM de l'ENS, et Adrien Perrard, enseignant-chercheur à Université Paris-Cité aussi, et à l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris. Je vais leur laisser leur micro. Christine, Adrien, pourquoi et comment elle est née cette exposition ?
Ok, merci. Donc effectivement, notre présentation va s'appeler « Biodiversité avec un C ». Et vous allez voir qu'il va se décliner de différentes manières. Et donc, nous sommes ravis de vous accueillir au cœur de l'exposition Biodiversité avec un C comme Université Paris-Cité, tout d'abord. Même si l'urbanisation, l'artificialisation des espaces naturels est une cause du déclin des espèces vivantes, nos villes ne sont pas dépourvues de vie. Adrien, Pierre et moi avons monté cette exposition avec le pôle culture et la faculté des sciences de notre université. Et nous sommes fiers de pouvoir vous la présenter. De vous l'avoir présenté, en tout cas. Notre objectif était de vous faire découvrir la richesse de la biodiversité urbaine à travers des photographies et des enregistrements, comme tu viens très bien de le dire. Alors, d'où proviennent ces productions qui ont été proposées, présentées pendant cette exposition ? Donc, en fait, ce sont des contributions citoyennes. La majorité d'entre elles proviennent d'un événement que nous avons organisé pour la première fois en Île-de-France au printemps dernier, avec Jérôme Mathieu, qui est un collègue de Sorbonne Université. Cet événement s'appelle City Nature Challenge. On l'a rebaptisé Défi Nature Urbaine en français. Cet inventaire express de la biodiversité urbaine est organisé à l'échelle mondiale et jusqu'en 2022, la France ne participait pas à cet événement, ce que nous avons trouvé très regrettable. En 2022, plus de 400 villes ont participé à cet événement et plus de 40 pays ont été mobilisés. Lors de cette première édition du défi francilien, un peu plus de 300 participants ont enregistré 5700 observations en 4 jours. Donc nous sommes assez fiers de cette première édition. Et cette exposition a permis de valoriser une partie d'entre elles. Et nous sommes très fiers aussi d'avoir pu monter cette expo pour faire ça. Il faut savoir que toutes les observations qui ont été effectuées pendant ce défi ont été déposées sur iNaturalist, qui est une version connectée des sciences naturalistes. Et donc, Adrien, pourrais-tu nous expliquer en quoi cela consiste ?
Oui, bien sûr. Merci, Christine. Donc, créé il y a une quinzaine d'années, iNaturalist est un outil gratuit qui comprend à la fois un site web et une application smartphone pour Android ou iOS pour documenter la diversité du vivant. Donc, au 7 novembre 2022, iNaturalist contenait plus de 135 millions d'observations et presque 6 millions d'utilisateurs à travers le monde. Le principe de base de cet outil est simple. L'utilisateur va téléverser une observation d'un organisme, c'est-à-dire une ou plusieurs photos ou des enregistrements sonores, avec les informations associées, le lieu ou la date, pour rendre ces données disponibles à l'ensemble de la communauté naturaliste et scientifique. Cette observation sera traitée par des naturalistes, amateurs ou spécialistes, pour identifier l'organisme sur la plateforme. Mais vous pouvez vous-même proposer une identification sans les attendre. Pour les images, on peut avoir une première idée rapidement avec un outil très pratique qui a pu être développé grâce à cette communauté de naturalistes virtuels, une reconnaissance automatique par intelligence artificielle entraînée par toutes les images identifiées du site. C'est pas parfait, mais ça donne une première idée. Donc iNaturalist apporte des données nouvelles sur la biodiversité, quelle espèce était où et quand, mais elle sert aussi de base à cet outil d'aide à l'identification qui rend la biodiversité plus intelligible, plus accessible à tout un chacun. Si vous voulez, on peut tester un outil de reconnaissance automatisée ensemble. Mais on va essayer avec un son plus simple pour faire participer les poditeurs et les poditrices. Donc qui parmi vous reconnaît cette espèce ? Vous pouvez lever la main. Donc peut-être 10% du public. C'est une espèce que vous connaissez. Hein. Maintenant, avec iNaturalist, on n'a pas encore d'outils automatisés pour les sons, c'est simplement pour les images, mais il y a l'équivalent pour les sons. Par exemple, Burnet, c'est comme un Shazam, mais pour les oiseaux. Donc vous allumez l'application et vous lui faites écouter le son. Vous appuyez sur le micro, ça enregistre, vous avez le sonogramme qui apparaît. Vous sélectionnez la partie du chant qui vous intéresse. Ça réfléchit. Et résultat, le merle noir.
Est-ce que vous aviez juste dans la salle ceux qui ont levé la main ? Ah !
Ça a le mérite d'être honnête.
Donc le merle, c'est un oiseau tout noir avec le bec jaune et une sorte de monocle doré qui est son iris jaune en fait, qui est très commun en ville, que vous avez certainement déjà vu, mais vous n'avez peut-être pas fait le lien entre cet oiseau tout noir et le chant qui est associé. Et du coup, ce genre d'outils sont utilisés pour documenter la nature en ville lors du défi nature urbaine. Et Christine, pourrais-tu nous en parler un petit peu plus de ce défi ?
Ok, donc la première partie qu'on souhaitait vous montrer, c'est biodiversité avec un C comme cité. Et donc, comme vous pouvez vous en douter, nos villes ne sont pas dénuées de vie. Et donc, dans la première partie de l'exposition, nous avons souhaité vous parler de synanthropie. Donc, on va relever les copies. Est-ce que vous vous souvenez ce que veut dire ceux qui étaient présents, ou peut-être les poditeurs et les poditrices en ligne, ce que veut dire le mot synanthropie ? Syn avec. Oui, j'espère que j'ai juste alors que ça va correspondre à mes notes. Donc la synanthropie, c'est un type particulier de relation liant certaines espèces non domestiques avec les humains à proximité desquels elles vivent. Ainsi, une espèce synanthrope s'est adaptée à des écosystèmes urbains et anthropisés. Cette interaction durable peut être perçue comme négative, neutre ou positive. On pense spontanément aux rats et aux pigeons, mais la synanthropie révèle tout un monde adapté à la vie sur le bitume. Cet oiseau, par exemple, le pigeon biset, est très commun en milieu urbain. Mais s'il pullule si bien dans nos villes, c'est qu'elle ressemble à son milieu naturel, les falaises. Comme ces falaises, nos immeubles sont des structures minérales et verticales. Ces immeubles leur offrent un cadre de vie cohérent avec leurs besoins. Donc, quand on pense à nature en ville, on pense souvent à ces espèces synanthropes, dont certaines, comme le pigeon ou l'abeille, ont bénéficié d'un coup de pouce de domestication pour s'installer. Mais la biodiversité urbaine ne se limite pas à ces espèces communes. Et donc, avec Adrien, vous allez partir à la rencontre d'autres espèces souvent plus discrètes.
Avec la biodiversité avec un C comme communauté biotique. Nous avons baptisé le deuxième pôle de notre exposition la jungle urbaine pour mettre en avant l'idée que le milieu urbain, c'est un écosystème qui abrite toute une communauté d'espèces vivantes. Des espèces qui se révèlent aux observatrices et aux observateurs qui prennent le temps d'explorer leur environnement. Certaines espèces sont visibles à l'aurore, comme les renards, d'autres se cachent sur les troncs, comme certains millepattes, ou sous les feuilles ou dans les fleurs, d'autres encore font quelques millimètres ou se camouflent en mimant leur environnement. Sortez votre loupe, explorez d'un œil curieux votre jardinière, le parc de votre résidence, les arbres et les trottoirs de votre quartier, et vous pourrez découvrir cette biodiversité cachée et les histoires qu'elle tisse en silence, à l'ombre de nos immeubles. Avez-vous une idée du nombre d'espèces sauvages présentes à Paris, par exemple? En 2020, la ville de Paris a publié un atlas de la biodiversité et ce sont plus de 2800 espèces sauvages qui ont été recensées sur le territoire en 10 ans. Et on découvre encore d'autres espèces aujourd'hui. Sur ces 2800 espèces, il y a plus de 800 espèces de plantes, de mousses, d'arbres, de fougères. Il y a aussi des centaines d'espèces de champignons, de lichens, et il y a la faune. Avec bien sûr les stars, le faucon pèlerin, le renard, la chouette hulotte, dans Paris, oui, mais bien d'autres, comme les tritons, les grenouilles, la dizaine d'espèces de chauves-souris qui chassent leur proie autour des lampadaires ou dans l'ombre des cimetières. Leurs proies sont des insectes, surtout, qui forment le groupe le plus diversifié avec plus de 1100 espèces recensées dans Paris. Donc le léger son que vous entendez maintenant, c'est un bourdonnement par exemple, qui a été enregistré sur une petite guêpe parasitoïde qui va utiliser son aiguillon pour pondre ses œufs directement dans le corps de ses proies. Celles-ci ont beau essayer de se cacher au creux des arbres, certaines guêpes ont un système de sonar qui les permet de les repérer à travers l'obstacle et un dard renforcé aux métaux pour percer les bois les plus durs et atteindre leur hôte. Ce genre de créature, qui a inspiré bien des films d'horreur, vit juste sous vos fenêtres. Je vous rassure, elles sont inoffensives pour nous, les humains. Elles font partie intégrante de la structure du vivant dans les écosystèmes en régulant les populations de chenilles et d'autres insectes. On a d'autres organismes. Reconnaissez-vous par exemple cette espèce ? La perruche, effectivement. C'est la perruche à collier. Originaire des forêts tropicales, d'Afrique et d'Asie, cette espèce exotique a été introduite en Europe où elle s'est acclimatée. Les premières observations en Île-de-France datent des années 70, autour des aéroports. Mais l'espèce est aujourd'hui bien installée dans nos parcs. Facilement reconnaissable grâce à leur plumage vert clair, ces perruches, également identifiables à leur cri strident que vous venez d'entendre. L'espèce est aujourd'hui considérée comme envahissante et rentre en compétition avec les oiseaux locaux pour la nourriture et les cavités où faire leur nid. D'ailleurs, Cléora nous en parlait en long et en large dans sa chronique pour l'épisode 457 de Podcast Science sur la couleur verte. Mais en ville, les organismes ne font pas que manger ou dormir. Certains organismes ont d'autres besoins, des besoins pour notamment se rencontrer, se reproduire. C'est le cas de beaucoup de plantes, parce que l'on appelle la pollinisation. Vous n'êtes pas sans savoir que les plantes se reproduisent grâce à leurs fleurs. Or, pour qu'une fleur produise un fruit, et donc des graines, il faut qu'un grain de pollen soit transporté sur le pistil, souvent avec l'aide d'un pollinisateur qui vient sur la fleur pour boire le nectar ou manger une partie du pollen. Mais on trouve à Paris des fleurs tricheuses, comme l'orchidée du genre Ophrys. Ce genre d'orchidée a adopté une stratégie écologique tout à fait remarquable, consistant non pas à offrir du nectar comme récompense, mais à utiliser un leurre. La fleur a des sépales et des pétales verts ou colorés et pourrait paraître quelconque sans son énorme pétale du bas, foncé et velu, avec deux bandes claires qui imitent grossièrement une abeille aux ailes fermées qui se serait posée sur une fleur. Son mimétisme ne s'arrête pas là. Car c'est surtout grâce à son parfum, qui reproduit celui d'une irrésistible abeille femelle, qu'elle attire ses pollinisateurs, des abeilles mâles. Ces derniers sont tellement pressés de s'accoupler qu'ils se laissent fréquemment berner par cette poupée florale. Et en tentant son affaire, le mâle fait une pseudo-copulation et va se coller du pollen qu'il transportera vers une autre fleur s'il se fait encore berner. Ainsi, l'orchidée disperse son pollen sans avoir à produire de nectar sucré, ni à risquer de se faire manger son pollen. Ces quelques anecdotes sur la biodiversité urbaine vous montrent à quel point la communauté vivante est riche et intriquée. Malheureusement, nous ne connaissons qu'une fraction de ce qu'il y a à savoir sur ces péripéties qui se déroulent pourtant juste sous nos fenêtres. Ne serait-ce que recenser les espèces est une tâche monumentale, sans parler de les connaître. Pour ce faire, les chercheurs font donc de plus en plus appel aux citoyens pour les aider en contribuant à des projets de science participative.
Et donc ça va nous permettre d'enchaîner sur la troisième partie qui est biodiversité avec un C comme citoyen. Les sciences participatives ou sciences citoyennes sont des programmes qui offrent un cadre pour le public, pour que le public puisse contribuer à des avancées scientifiques. En science, il y a beaucoup de tâches qui requièrent énormément de travail et qui n'ont pas d'enjeu assez direct pour financer le développement de systèmes d'automatisation. L'acquisition ou l'interprétation de données liées aux étoiles ou à la biodiversité entre dans ce cadre. Or, ces activités peuvent être plaisantes en soi et des gens sont prêts à passer du temps pour faire ces activités, pour peu qu'on leur en donne l'opportunité. Comme l'exposition Biodiversité s'appuie sur un tel programme, c'était l'occasion de mettre en lumière ces initiatives citoyennes pour, nous l'espérons, motiver de nouvelles et de nouveaux participants. iNaturalist est un exemple de programme de sciences participatives très simple. Vous prenez une photo, vous enregistrez un son, vous les postez sur iNaturalist et hop, c'est fait. Vous avez ajouté votre grain de sable à la connaissance du monde vivant. Mais il y a de plus en plus de programmes de sciences participatives avec différents degrés de complexité scientifique. Vous venez d'entendre le chant d'un rouge-gorge. Certains programmes comme le suivi temporel des oiseaux communs, ou STOCK, implique d'avoir des connaissances de base en ornithologie. C'est un investissement personnel sur le long terme puisque les participants s'engagent à suivre régulièrement la diversité d'oiseaux d'une zone qui leur est attribuée. D'autres nécessitent du matériel spécial pour pouvoir entendre des sons inaudibles à l'oreille humaine. Ce son que vous venez d'entendre est un son modifié d'un cri. Est-ce que vous savez de quoi ? D'une chauve-souris. Plus précisément, d'une noctule commune. Ce cri est suffisamment ralenti pour pouvoir être audible. C'est le genre de son que va récupérer le programme Vigikiro, permettant ainsi le suivi des chauves-souris. Dans ce programme, les participants font des sessions d'écoute nocturne selon un protocole standardisé avec un matériel capable de capter les ultrasons. Mais la nuit, on n'entend pas que des chauves-souris. Qui produit ce bruit ? Vous avez des idées ? Lorsque les scientifiques du programme Vigikiro ont réalisé qu'ils enregistraient au passage des criquets et des grillons, ils ont eu l'idée de lancer le programme SON, S-O-N. Ce programme réalise alors un suivi des orthoptères nocturnes et permet de recenser ces insectes chanteurs. Il existe de nombreux autres programmes, comme un dragon dans mon jardin pour les lézards et les grenouilles, Spipol pour les insectes pollinisateurs, ou encore Lichen Go pour les lichens. Beaucoup de ces programmes sont portés par le Muséum National d'Histoire Naturelle, au sein du programme Viginature, et Vincent Chassani et Isor Woods vous expliqueront un peu plus tard en détail comment cela fonctionne.
L'enjeu de ces programmes est bien sûr d'acquérir de nouvelles données pour améliorer nos connaissances scientifiques, mais aussi de sensibiliser le public à la méthode scientifique, basée sur des observations concrètes, ainsi qu'à la diversité du vivant. Car on ne se soucie pas de ce que l'on ignore, et il est facile d'ignorer ce que l'on ne voit pas. Mais ouvrir les yeux à la biodiversité, c'est ouvrir les yeux sur les merveilles qu'elle recèle, et avoir autant de bonnes raisons de se préoccuper de son état et de son devenir. Avec Pierre et Christine, nous espérons qu'avec cette exposition et ce podcast, nous avons poussé quelques personnes à se pencher un peu plus sur leur environnement, à explorer la biodiversité avec un C comme conscience.
Bravo. Merci beaucoup à tous les deux pour cette première et super chronique qui permet, je pense, aux habitués de Podcast Science qui habitent parfois loin, voire très loin de Paris, de visiter aussi un peu cette jolie exposition Biodiversité avec un C via l'émission de ce soir, et également peut-être aux plus parisiens d'entre nous d'envisager leur ville et sa grande variété d'habitants un peu différemment. Le premier habitant qui m'a accueilli à Paris, d'ailleurs, moi, lorsque j'ai emménagé dans mon premier petit appart d'étudiante, qui était dans cet arrondissement, c'était un pigeon, ou plutôt deux pigeons. En fait, c'était deux cadavres de pigeons, en réalité, qui étaient coincés dans ma bouche d'aération, que j'ai dû aller décoller en les plantant à coups de fourchette. Un grand moment de vie, mais pas mon meilleur souvenir de cohabitation urbaine parisienne. Mais laissons de côté les histoires de cadavres pour une prochaine émission radio dessinée putréfaction et revenons aux chroniques de ce soir. Vous nous avez parlé d'Innaturaliste, qui n'est, si j'ai bien suivi, qu'une partie finalement d'un panel d'initiatives bien plus large que ça pour nous permettre de devenir tous et toutes veilleurs de la biodiversité. Je vais donc laisser le micro maintenant à Vincent Chassani, enseignant en SVT et responsable du programme Viginature École au Muséum National d'Histoire Naturelle.
Bah, bonsoir à tous, et tout d'abord merci de m'avoir invité, je suis très très heureux d'être là pour plein de raisons. Une de ces raisons, c'est que l'exposition est magnifique, et que magnifier un pigeon ou un rouge-gorge ou d'autres petits animaux qu'on qualifie souvent d'ordinaire, bah, c'est déjà un beau défi, donc c'est superbe, je suis ravi. Une autre raison, c'est que j'ai fait partie de cette belle université pendant 12 ans, et revoir des têtes amicales, ça me fait bien plaisir. Et puis une troisième raison, on m'a toujours dit que j'avais un physique à faire de la radio, et donc c'est l'occasion ou jamais de tester cet item, donc je ne vais pas m'en priver. Donc effectivement, je travaille depuis peu au Muséum National d'Histoire Naturelle à Viginature. Alors Viginature, le terme est un petit peu insolite, peut-être qu'une vigie, ça vous évoque plutôt la tour du Père Fouras dans Fort Boyard, je ne sais pas. Mais on va essayer d'élucider ce qui se cache derrière ce nom de Viginature. Alors, pour ça, on va faire un petit saut temporel. On va aller dans les années 90, Christine en a un petit peu parlé, mais c'est une époque durant laquelle les scientifiques ont commencé à se poser des questions sur l'effet des changements globaux, alors réchauffement climatique, pollution généralisée, artificialisation, sur la biodiversité. Et à partir de là, un constat s'est imposé. Peu de chercheurs en écologie en France et besoin de beaucoup de données. Des données sur tout le territoire, sur toute la France, des données sur un temps long. Donc c'est difficile de collecter ça. Donc pas assez de bras. Et c'est à cette époque que les sciences participatives ou citoyennes ont émergé. Et Viginature, c'est un pôle de sciences participatives important en France qui est au Muséum d'Histoire Naturelle. Alors vigie, ça veut dire ce que ça veut dire, ça veut dire surveiller. Donc c'est surveiller la biodiversité, et c'est ce que je vous propose, pourquoi pas, j'espère vous convaincre au travers de cette petite séquence, de vous engager dans ces suivis. Donc de manière concrète, on va solliciter des citoyens pour nous aider. Alors qui sont-ils, les citoyens en question? Plein de gens. Donc ça s'adresse pas qu'aux spécialistes, Viginature, ça s'adresse pas qu'à des naturalistes, ça s'adresse à des gens qui sont simplement amateurs, qui s'intéressent à ces questions-là. Ça s'adresse aussi au monde agricole, ça on le sait pas, mais on peut demander des sciences participatives au monde agricole aussi, on les sollicite, des gens qui sont autour de l'agriculture et qui ont envie de connaître la biodiversité. On a une vision un peu peut-être caricaturale du monde agricole, mais certains sont mobilisés aussi dans ces programmes-là. Et puis un public aussi, des gestionnaires de parcs et jardins, ils participent aussi. Et puis un public qui me tient particulièrement à cœur, c'est le public scolaire. Donc moi, je suis responsable de l'antenne scolaire au Muséum d'Histoire Naturelle, Viginature École, plus spécifiquement. Donc c'est un public qu'on touche aussi plus particulièrement. Alors concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière Viginature? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose? Donc il se cache, 20 observatoires à peu près. C'est quoi un observatoire? C'est une structure qui va s'occuper de suivre un groupe taxonomique, des plantes, des animaux, ou un groupe fonctionnel, des pollinisateurs, les organismes du sol, par exemple. Et donc, il y a 20 observatoires différents qui vont s'intéresser à ces questions-là. Donc, qu'est-ce qu'on demande au public? On leur demande différentes choses. Je vais vous donner des exemples. Ce sera plus simple et plus parlant. On a des petits noms rigolos pour nos observatoires. On a un qui s'appelle Opération Escargot, par exemple. Alors, Opération Escargot, c'est quoi? C'est un des plus simples. On dispose une petite planche par terre. On la surélève. Et quand il fait sec, que font les escargots? Je vous le donne en mille. Ils aiment bien l'humidité, les escargots. Donc, ils vont aller se réfugier sous la planche. Et donc, il suffit d'aller soulever la planche, pas un jour de pluie, mais un jour où il fait sec, et d'aller ramasser les escargots qu'il y a dessous, de les identifier, de voir quelles sont les espèces, quel est leur nombre, etc. Et puis des choses plus sophistiquées, dont Christine a parlé, voir l'invisible avec Vigikiro, par exemple, c'est un programme de Viginature. On s'intéresse aux chauves-souris, il y a le stock dont tu parlais aussi, qui s'intéresse aux oiseaux. Historiquement, les premiers programmes de sciences participatives, ça a été beaucoup sur les oiseaux, parce que les gens aiment beaucoup les oiseaux. Donc ça mobilise beaucoup de monde. Et puis, il y a des tas de choses, ça continue. Il y en a un qui vient de se mettre en place, qui s'appelle CUBS. Alors, CUBS, ça s'écrit Q-U-B-S, pour qualité biologique des sols. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se met à quatre pattes, on pose un petit carré par terre, et on va identifier la faune du sol que l'on a dans ce petit carré. En plus, avec les moyens du bord, avec un petit aspirateur qu'on aura construit nous-mêmes avec un pot de yaourt, donc c'est vraiment tout un programme. Et on va comme ça avoir accès à un pan de la biodiversité qu'on ne connaissait pas forcément. Donc, voilà. Alors, vous allez me dire, présenté comme ça, c'est de l'exploitation, cette histoire. On exploite du monde, et parfois même des enfants, le public scolaire, vous imaginez l'horreur? Donc, l'idée, c'est quand même qu'il y a une réciprocité. Déjà, les chercheurs s'engagent à, en retour, informer sur les recherches qu'ils font autour de ces données qu'ils ont collectées. Alors ça, il faut peut-être encore le travailler. Ça devrait être mieux fait. Les chercheurs devraient sans doute mieux communiquer autour de leurs travaux. Mais on y aspire. Puis dites-vous que les enjeux, ils sont pas que là non plus. Christine et Adrien en parlaient. Mais derrière ces programmes de sciences participatives, il y a un enjeu très très fort qui est la connexion ou la reconnexion à la nature. Et alors, c'est pas une évidence en France, ça. Et en France particulièrement au niveau européen. Ça, c'est bien documenté. Il y a une chercheuse d'ailleurs de l'Université Paris-Cité qui a travaillé sur ces questions, sur les questions du rapport des Français à la nature. Et on sait que pour des raisons historiques, dans tous les domaines, la France s'est toujours réveillée un petit peu tard quand il s'agissait de s'intéresser à la biodiversité. Donc il y a ce retard-là à compenser. Et tu parlais du challenge City Nature, qui n'en avait pas eu encore à Paris, c'est un signe aussi de ça. Donc il y a l'intérêt de connecter. Et imaginez des petits scolaires qui vivent en milieu urbain, le fait d'aller chercher des escargots sous une planche, c'est peut-être la première fois qu'ils se sont intéressés à des escargots. Et quand on sait qu'en France, il y a plus de 200 espèces d'escargots, je vous aurais demandé combien vous en connaissez. Vous m'auriez peut-être cité l'escargot de Bourgogne, le petit gris, et puis c'est à peu près tout. Et pourtant, il y en a plein d'autres. Donc l'enjeu, il est aussi là. Et puis, il y a aussi un autre enjeu, c'est qu'en faisant ça, ça peut paraître rébarbatif, on vous impose de faire des petits carrés, d'inventorier pendant des temps déterminés, donc il y a des protocoles qui sont assez stricts, mais l'enjeu, c'est aussi de comprendre un peu comment certaines sciences fonctionnent. Alors, je ne dis pas que c'est la seule démarche scientifique qui existe, sinon mes amis didacticiens vont me trucider, mais sinon, c'est quand même une démarche scientifique. Je m'approche, voilà, parmi d'autres, et c'est l'occasion ou jamais de rentrer, de participer à la recherche et de rencontrer ce monde-là. Alors, ça touche qui, en fait? Ça touche combien de personnes, cette histoire-là? Dites-vous qu'il y a à peu près entre 10 000 et 50 000 personnes hors scolaires qui participent tous les ans. Alors, c'est une fourchette large. Pourquoi 50 000? Ça, c'était les années Covid. On s'ennuyait un petit peu et on allait faire des choses dans son jardin. 10 000, c'est plus le nombre de personnes qui participent en temps normal. Et puis, les scolaires. Alors là, l'année dernière, par exemple, il y a plus de 10 000 élèves qui ont participé à ces programmes-là. Donc, il y a beaucoup d'enjeux autour de ça, beaucoup de choses à faire. Et puis bon, voilà, maintenant, je vous ai tout dit, c'est le moment de vous engager, pourquoi pas d'aller voir ce qui se passe du côté du sol, parce que c'est bien beau les oiseaux, tout le monde s'y intéresse. Quand je vous ai cité les observateurs, là, presque tous, je vous dirais 80% des observations, c'était sur les oiseaux, hein, là, ce que je vous ai cité. Qui s'intéresse aux escargots? Qui s'intéresse au sol? Qui s'intéresse aux chauves-souris? Regardez ce champ énorme d'investigation qui reste. Alors faites-le, allez sur Viginature, moi je fais de la pub en passage, allez sur notre site et découvrez la diversité des programmes qu'il y a, et puis faites ce que vous risquez, qu'est-ce que ça vous coûte. Si, ça vous coûte quand même une chose, de renvoyer vos données. Faut pas oublier, parce que c'est à partir de ça qu'on peut faire de la recherche, donc je vous invite à le faire. Voilà, bah merci beaucoup.
Merci beaucoup Vincent. Ça me rappelle cette histoire d'aller regarder dans les sols. Il y avait une expo, je crois que c'était au Parc Floral de Vincennes, mais peut-être que je me mélange les pinceaux, où on invitait les gens à venir regarder ce qu'ils ramassaient sous les semelles de leurs chaussures et à regarder la biodiversité qui baladait d'un endroit à l'autre via les chaussures. J'avais trouvé que c'était chouette de regarder aussi ce qui se passait sous vos
pieds.
Propose
ce programme.
Ouais. On en arrive déjà, mine de rien, à la moitié de notre émission côté chronique. Je vous propose donc d'aller jeter un œil du côté de la table des dessinateurs où ça a l'air de s'agiter fort. Avec nous ce soir, pour notre plus grand plaisir, nous avons trois membres du Café des Sciences. Nous avons FIP, grand chef des fabuleuses éditions Lapin. On a Mel TomTom, dont vous pouvez retrouver les œuvres sur son Insta, @mel... Je ne sais plus comment il faut lire, tiré du bas, Illus, ceux qui connaissent. Voilà, merci. Et voilà. Et Pelici, qui est autrice des mangas Materials and Methods. Et c'est le moment où je laisse le micro à Topo pour nous présenter les dessins.
Oui, tout à fait. Quelle glorieuse idée d'envisager de faire une émission radio dessinée dans laquelle y a des dessins qui sont produits, on est en radio, et donc il y a un Gugus qui doit les décrire. Donc c'est moi, et voilà, je vais commencer donc immédiatement par décrire les dessins qui sont à ma gauche. Et donc vous avez le premier dessin qui a été réalisé par FIP. Il va falloir faire un disclaimer, donc prévenir le public que FIP dessine déjà beaucoup. On est à une quinzaine de dessins lui tout seul, voilà, et beaucoup sur un thème très très particulier que vous allez découvrir rapidement pour pouvoir comprendre le personnage. Donc FIP dessine des lapins, et ici on a Lapin Sauvage en par Dior pour probablement évoquer les odeurs qu'on pouvait sentir de lapin ou pour la description de FIP. Dessin de Mel, donc avec trois personnages qui sont attablés, c'est-à-dire nous avons le personnage de Mel au milieu, le personnage de Pelichi qui répondent à la phrase de Claire qui était « C'est la reprise des radios dessinées ». Les deux disent « Oui !» et Lapin, donc FIP, dit « Beat !» Ce qui pourra vous laisser augurer de bon, sachant qu'il est aussi dessiné un verre de vin à sa droite, donc, ce qui va expliquer les prochains dessins. Un dessin donc de Pelichis qui nous permet de voir les styles des trois dessinateurs ce soir. Et donc, lorsque nous avons fait les tests des micros, on a fait une jolie harmonisation. Et chacun des dessinateurs a fait A, tout d'abord, et puis ensuite B et C. Un dessin de FIP, le printemps de Podcast Science Radio Dessiné. On voit deux lapins qui sont dans les herbes. Le jardinier a démissionné pendant le Covid, printemps en... Un dessin de Mel dans lequel on voit la biodiversité en ville et nous sommes dessinés, on a un petit rat, un pigeon, une mouche et une poubelle. On a donc rourou, bzz, bzz. Enfin, on va parler de nous. Un dessin de Pelichi, donc qui visiblement est en face d'une radio avec le test blind test d'oiseau. Et donc on entend cui-cui et Pelichi qui sue à grosses gouttes, il dit Edith Piaf. Donc voilà, ça y est, on y arrive. Donc les dessins donc, de FIP qui dessine un lapin un tout petit peu pervers qui est dans son imperméable et qui parle à un oiseau. Les animaux discrets. Hey, tu veux voir la reproduction du merle pourpre avec des souris vertes en HD. Chatte avec des pigeons très sales. Cuit ? Ah non, pas cuit. Un dessin de Mel, Birdnet décrypte les chants d'oiseaux. Il y a un petit oiseau qui est sur un arbre et qui dit pi 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 pi. Et donc Mel qui est représenté avec son téléphone et qui l'utilise avec Birdnet. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ce beau zozio ? Baisse les yeux, wesh ! Ah, malheureux, les oiseaux s'adaptent aux coutumes locales. Donc FIP qui a aussi probablement trop bu de vin a représenté deux personnages, lapins. Donc il a entendu le cri de la perruque et donc il y a un lapin avec une perruque qui dit « Croix, au secours, perruche !» un joli dessin donc de Pélichy qui nous a représenté un magnifique pigeon. Donc je rappelle que pour la plupart des auditeurs,